c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute en écoute la télé avec, pour commencer cette émission, notre premier coup de cœur ciné de cette semaine consacré au film Les Promesses qui sortira mercredi dans les salles. Thomas Kruithof, son réalisateur, sera avec nous dans une poignée de secondes. En fin d'émission spéciale pour te retrouver, La Fiction qui sera diffusée demain soir sur M6, produite par Odile McDonald, écrite par Isabelle Sébastien et également Laetitia Millot au casting. Les trois seront avec nous en fin d'émission pour terminer en beauté. Au milieu, et bien aujourd'hui, page spéciale Festival de l'Alpe d'Huez, réaction des lauréats, invités surprises qui vous attendent. Bref, vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné est consacré aujourd'hui au film Les Promesses qui sort mercredi dans les salles avec Thomas Kruithof qui est justement notre invité, réalisateur du film. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Les Promesses, on peut appeler ça un peu un thriller politique, en quelque sorte, un film politique. Et ça fait du bien de voir un peu les arcanes du pouvoir, moi je trouve aussi, de voir un peu comment le pouvoir peut changer les choses, la vision. Moi j'aime bien les films politiques de toute façon, en globalité.
Bah moi aussi, ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de traiter ce sujet?
Bah, je pense j'avais envie de faire un film sur la politique, qui s'approche de ce que peut être le courage politique, et probablement que je me disais pas tout de suite que le film devait être comme tu le dis, un thriller politique, mais qu'il viendrait progressivement à mesure que les enjeux augmentent et que le rythme du film s'accélère, ouais, probablement capter un peu l'énergie, la tension, l'ardeur du combat qu'il y a dans la politique au fur et à mesure du film. Et puis j'avais cette envie de plonger dans le concret de la politique, le concret de la politique de terrain, de la politique locale, quoi. Même si on voit le film où la politique locale et ce qui se passe dans cette ville dont Isabelle Huppert est maire et Reda directeur de cabinet, Reda Kateb directeur de cabinet, même si tout ça on voit résonner ça dans les plus hautes sphères de l'État tout au long du film, la politique c'est pas, voilà, on le voit là, il y a la campagne présidentielle, c'est pas que des plateaux télé, c'est pas que des discours, que des déclarations, c'est avant tout résoudre des problèmes des gens et au quotidien, c'est le job d'un maire et les problèmes des citoyens de sa ville, il est constamment exposé, il connaît leur nom, il connaît leurs problèmes, les gens l'abordent dans la rue, les gens l'abordent à son bureau, donc je voulais retrouver un peu cette réalité.
Alors on y suit le destin de Clémence qui a donné toute sa vie à la politique et qui s'apprête à raccrocher les gants, comme on dit, un peu, en quelque sorte, et jusqu'au moment où elle va avoir la proposition qui va faire tout basculer, en quelque sorte.
Oui, voilà, c'est un personnage assez droit qui est devenu politicienne sur le tard, même si l'engagement politique a fait partie de sa vie, et elle s'est dit qu'elle allait pas trop s'accrocher au pouvoir, que c'était juste son deuxième mandat, et elle essaye de trouver une solution, d'obtenir une subvention de l'État pour sauver une cité en voie de dégradation totale ou dans laquelle habitent 3000 personnes, et c'est là qu'arrive une proposition qu'elle attendait plus, quelque chose qu'elle avait probablement pas rêvé dans sa carrière et qu'au début elle prend avec vraiment des pincettes et qui va un petit peu vriller, créer un vertige un peu existentiel chez elle, quoi.
Comment t'as eu l'idée de proposer ce rôle à Isabelle Huppert et comment elle a réagi?
Bah, l'idée, j'avais tout de suite dans les premières phases de l'écriture, parfois on
c'est elle déjà.
Oui, on donne des noms d'acteurs parfois dans une discussion avec mon co-scénariste JB Delafont. Tu lances des noms d'acteurs et parfois ça t'aide à imaginer un peu plus les personnages et puis après tu construis les personnages, t'essaies d'oublier les acteurs auxquels t'as pensé. Et là, c'est vrai qu'on s'est tout de suite dit, tu vois, la mère ça serait genre Isabelle Huppert et le directeur de cabinet ça serait genre Reda Kateb. Et on a essayé de garder un peu leur présence physique en tête quelque part. En tout cas, moi je les ai j'ai toujours eu. Et puis les personnages se sont construits et à la fin on est revenu à cette idée de départ quand il s'agit de faire le casting. Et voilà, il y a une autorité naturelle chez Isabelle Huppert. Elle a quelque chose de fort et de politique, aussi une silhouette assez frêle mais qui dégage une grosse énergie, une grande tension. Et j'étais très content qu'en fait elle ait jamais fait de rôle politique malgré tous les grands rôles qu'elle a interprétés durant sa carrière. Voilà, je lui ai envoyé le scénario et on a eu une rencontre. C'est quelqu'un de très très curieux comme ça de premier abord, donc elle me posait beaucoup de questions sur le film, sur la politique, etc. Puis voilà, au bout d'un certain temps la discussion s'est un peu engagée autour du film et quelques temps après elle m'a dit oui et c'était merveilleux.
À l'écran, la magie opère vite entre Yazid et Clémence. Est-ce qu'entre les deux comédiens, cette magie a opéré aussi vite sur le tournage? Est-ce que tu t'es rendu compte très rapidement que vraiment il se passait quelque chose entre les deux, justement que ça matchait bien quoi?
Ouais, bon, on raconte voilà au cœur du film, au-delà de tous les enjeux politiques et qu'il y a dans le film et de toute la tension que cela crée, il y a aussi une relation au centre qui est cette amitié professionnelle entre un directeur de cabinet et un maire. Donc c'est une complicité, c'est une admiration mutuelle, c'est deux personnes qui se stimulent intellectuellement au quotidien et qui passent un peu leur vie ensemble, où la frontière entre intime et professionnel, elle est pas toujours claire. Et c'est vrai que voilà, raconter cette complicité, je pense que enfin évidemment moi j'avais rêvé ce duo et la première fois qu'on a fait une lecture, voilà, on était dans un bureau et puis chacun lisait le texte sans mettre vraiment d'intonation. Je les entendais se parler, je les voyais se regarder, puis voilà, parfois on arrête de lire, on fume une clope, on boit un café. J'étais sûr qu'il y aurait une alchimie entre eux. Je pense que ça fonctionne aussi parce qu'ils avaient envie de travailler ensemble. Chacun aime le travail de l'autre. Et la première scène où ils ont été tous les deux, c'était un ping-pong quoi. Enfin, voilà, chacun a renvoyé la balle et d'une prise à l'autre, l'un faisait une variation et l'autre s'ajustait ou répliquait ou trouvait une autre idée. Et donc c'était hyper enthousiasmant à voir.
Il y a des parcours de femmes politiques qui t'ont quelque part un peu inspiré à l'écriture ou pas?
Je pourrais pas dire un nom en particulier, mais c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs mères, enfin peut-être 7 ou 8 mères, donc pour moitié hommes, pour moitié femmes. Et puis voilà, je m'intéressais à beaucoup des mères de banlieue, à la manière dont elles s'habillaient, dont elles parlaient et tout ça. Et aussi, il y a souvent beaucoup d'histoires chez les mères parce que parfois c'est quand même un métier de vocation. Le personnage Isabelle Huppert, c'est une ex-médecin. Elle était médecin avant. On a beaucoup de gens qui viennent à la politique, qui vont occuper des fonctions de maire en venant de métiers de vocation, donc des métiers de vocation un peu tournés vers les autres, souvent médecins ou parfois dans l'éducation nationale, très souvent.
C'est une vie donnée aux autres, hein, voilà, clairement.
C'est une vie donnée aux autres et souvent la passerelle elle est assez simple. Et c'est chez les hommes politiques au niveau national, parfois c'est bon, évidemment il y a la formation ENA, Sciences Po, etc. C'est difficile complètement de voir d'où ils viennent, vers quel a été leur parcours de vie, alors que chez les maires, quand on les rencontre, quand on les voix à parler, et il nous reste des choses. Je veux dire, ils n'ont pas changé complètement leur manière de s'habiller, ils ont une manière d'être ou d'exister. Je pense que le personnage d'Isabelle, elle est mère comme elle était médecin, quoi. C'est-à-dire, elle raconte pas de salade, elle est assez franche. C'est une espèce d'énergie, quoi.
Je vous invite à découvrir ce film, ça s'appelle Les Promesses, ça sort mercredi au cinéma. Comment tu te sens là, à 2 jours de la sortie, là où le film va appartenir au public?
Je sais pas. Le jour de la sortie, c'est quand même toujours un jour un petit peu difficile, quoi. Après, on a montré le film, on a eu la chance d'aller dans pas mal de festivals en France et ailleurs. Donc, j'ai eu des vraies rencontres avec le public. Mais bon, là, voilà, maintenant, je suis au bout de cette phase-là et maintenant tout redémarre. Et c'est j'espère une rencontre avec le grand public. Je pense qu'il faut être positif et content de laisser partir le film, voilà, sur son chemin. Voilà.
Tu penses déjà à la suite? Est-ce que tu as déjà d'autres projets? Est-ce que le prochain film est déjà sur les rangs?
Ouais, j'ai des choses sur les rails et probablement le fait de sortir le film mercredi va m'aider à passer complètement à autre chose. Mais oui, j'ai écrit d'autres choses qui sont probablement pas encore assez abouties pour passer à la phase de financement et tout ça. Mais je crois que je sais à peu près où je vais. Ouais.
Les Promesses, le nouveau film de Thomas Kwitoff, ça sera donc mercredi dans les salles, le film à ne pas rater, avec Isabelle Huppert, avec Nedra Ayadi, qu'on aime beaucoup dans notre émission aussi, Isabelle Huppert, voilà, du beau monde, en tout cas un très beau cast dans ce film. Merci Thomas et on se quitte avec tout de suite la bande annonce, à bientôt.
Merci Alain.
Quelqu'un va vous contacter pour caler un rendez-vous.
Avec
le Premier ministre.
On me propose d'être ministre.
T'hésites?
Je vais me faire broyer.
Ça m'aiderait de comprendre un peu comment ça fonctionne dans ta tête.
Finalement, je te croyais différent des autres, mais t'es prêt à vendre père et mère pour quelques miettes de pouvoir.
Ça
fait 12 ans que je la vois se bagarrer pour les Bernardins comme si l'avenir de l'humanité en dépendait. Je te demande juste de lui faire confiance un peu.
Les plans, ça fait 20 ans que j'en vois passer. L'État trouvera toujours une bonne raison pour ne rien faire. Je les prends sur qui, les Milou?
Mais vous faites comme vous voulez, vous vous démerdez, je m'en fous de votre cuisine.
On cherche des personnalités, pas des pirates de la politique.
Allez, dans une poignée de minutes, je vous emmène direction l'Alpe d'Huez. On va revenir sur cette 25e édition qui vient de refermer ses portes. Alors, à tout de suite, bougez pas.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. La télé, le talk show radio.
Et notre spécial festival démarre donc maintenant. On va dérouler ensemble le palmarès de cette 25e édition du festival de l'Alpe d'Huez avec le prix d'interprétation féminine pour commencer qui a été attribué à Audrey Almy pour le film La Brigade. Voici tout de suite sa réaction.
Non mais je disais que c'était la première fois que j'avais reçu, que je recevais un prix d'interprétation, donc j'étais évidemment très fière et honorée de le recevoir ici dans ce festival de la comédie, de voir déjà que ce film est aussi une comédie, parce que aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de rire? Qu'est-ce que c'est une comédie? Il y a des comédies sociales, il y a des comédies romantiques, il y a des comédies à l'anglaise, etc. Donc déjà que ce film puisse avoir soit sélectionné parmi d'autres films très très variés, bah, c'était chouette. Et puis ce prix d'interprétation, bah voilà, je sais plus qui disait tout à l'heure, on fait pas ce métier pour avoir des récompenses, mais quand on en a une, on est quand même très très heureux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis encore plus honoré que ce soit sur ce film, sur le sujet, sur ce que ça raconte, sur de mettre en lumière voilà c'est jeune et puis surtout de d'accompagner jusqu'au bout ma collaboration avec Louis Julien que j'adore, qui est un réalisateur formidable avec qui j'avais tourné Les Invisibles, donc voilà, je suis fier de lui offrir aussi ce prix à lui.
Quant au prix d'interprétation masculine, c'est un prix collégial qui a été attribué au film Au revoir le bonheur à François Arnaud, Louis Morissette ou encore Antoine Bertrand. Ils sont quatre frères dans ce film et ils ont tous obtenu donc ce prix commun pour ce prix d'interprétation masculine. Voici à notre micro Louis Morissette et François Arnaud.
Sous le choc un peu, c'est formidable, c'est surtout un prix pour le film, pour moi, mais pour nous tous évidemment, mais pour Ken aussi, et qui prouve, je trouve, film après film, que la comédie peut être faite avec finesse, doigté et profondeur.
Ben, en fait, c'est vraiment particulier et plaisant de le gagner pour les quatre ensemble.
Ouais.
Ça, je sais pas, ça crée quelque chose de vraiment très intense. C'était un tournage qui était un peu reculé. On n'était pas réellement à Montréal, on était aux îles de la Madeleine. Donc on a passé comme deux mois ensemble. Donc on a fait vraiment une équipe. Il y avait un esprit corps très très fort quand on au tournage. Et on arrive au final dans un festival et on gagne ensemble. Je trouve qu'il y a une belle continuité. Ça représente le film. C'est une famille. Et on gagne en famille.
Ouais. Le prix du court-métrage a été attribué à celle qui n'avait pas vu Friends. C'est de Charlotte Gabris. Un court-métrage absolument fantastique à découvrir. Quant au prix du public, lui, a été attribué au film Jumeaux, mais pas trop. La chance pour nous d'avoir un autre micro, Ahmed Silla, Bertrand Huskla et Wilfried Mehans, le co-réalisateur.
Bah, incroyable. Incroyable, vraiment, de revenir une nouvelle fois et de remporter ce prix du public, d'être plébiscité par le public. Pour moi, c'est le plus beau des trophées. Parce que voilà, c'est les gens qui vont aller en salle, qui vont soutenir, qui vont faire en sorte que ton film soit un succès, qui va te permettre d'en faire d'autres. Donc voilà, c'est juste magique, c'est juste incroyable. Je suis content d'être revenu.
Bertrand,
c'est pareil, une réaction de bonheur, un peu de choc aussi, parce que il y a tout un tas de premières fois qui sont passées ici, premier festival, première projection du film, premier prix et en plus celui du public qui, moi à mes yeux, est le plus important, et d'avoir l'espèce de magie de se dire que ce qu'on a vécu et ce qu'on a vécu pendant le tournage, ce qu'on a vécu pendant la projection, de voir que ça se concrétise par un prix, le prix des gens qui font le cinéma, les gens qui vont voir le film, de savoir que ça parle à tout le monde. Moi, je suis hyper ému.
Et le co-réalisateur Wilfried Mehans?
Bah oui, heureux, c'est un énorme bonheur. Le public, c'est ce qu'il y a de plus important quand on fait des films. Moi, j'ai toujours dit que je faisais des films pour le public. En court-métrage, j'étais venu souvent, j'avais jamais gagné de prix, et venir avec mon premier long, gagner ce prix du public, c'est énorme. Et puis le partager, surtout avec une équipe d'acteurs, de techniciens, des producteurs, avec mon co-réal Olivier, c'est une belle histoire qui a commencé à Angoulême et qui se continue.
Quant au prix spécial du jury, lui, il a été attribué à l'excellent film On sourit pour la photo de François Usan, qui était donc notre invité. On l'a à notre micro, réaction à chaud.
Le prix est spécial, mais la soirée est très très spéciale pour moi. C'est un peu cliché de dire j'y pensais pas, je réalise pas, etc. je réalise exactement ce que ça représente. Je réalise à quel point c'est une marque de confiance, à quel point c'est une façon de dire je t'aime de la part du jury à mon cast incroyable, Pascal Abillot, Jacques Gamblin, Agnès Surstel, Pablo Poli, Ludovic. Je suis extrêmement heureux. J'ai pas fait ce film pour avoir des prix, j'ai fait ce film pour qu'il touche les gens. Et en touchant les gens, ce prix est venu. Donc c'est un dommage collatéral, c'est un bon dommage collatéral ce prix. C'est pas la raison unique, mais ça me fait très plaisir.
Deux shoots d'émotion à deux soirées d'intervalle, ça fait beaucoup, hein.
Ouais, c'est ça qui était violent. C'est-à-dire que hier, c'était la Projo où le film dure 1h34, j'ai pleuré 1h28, ça fait quand même beaucoup. Le reste, c'est le générique, je pense, et les logos. Et le lendemain, ce prix-là, c'est beaucoup d'émotion pour un premier film, surtout, qui a pris autant de temps. Donc ça a pris. On travaille sur ce film pendant. J'ai travaillé ce film pendant 11 ans. Et puis le résultat de ces 11 ans, c'est deux soirées très fortes. Donc c'est un choc, vraiment, c'est brutal, c'est pleine gueule, mais c'est un grand, grand, grand moment de bonheur.
Et avant d'accueillir Christophe Beaugrand et Arnaud Ducré, on termine par le grand prix de ce festival et de cette 25e édition qui a été donc attribué à Irréductible, le nouveau film de Jérôme Commandeur, qui était également à notre micro pour cette clôture.
C'est marrant parce qu'on lutte dans nos métiers, on lutte pour être dans la lumière, et puis quand on y est, on aurait presque envie un peu de se barrer les jambes à son cou, et surtout, on a envie de parler des autres. Et je pense à Laetitia Doche, à Pascal Arbillot, à Gérard Darmon, Christian Clavier, enfin voilà, toutes les Valérie Lemercier, Malik Bentala, toute cette équipe, quoi.
Un casting de dingue. À qui tu le dédies ton prix, là, aujourd'hui?
Peut-être à mes parents, voilà, qui sont pas encore au courant, qui doivent être devant un replay de Meurtra.
Et qui vont être super fiers de toi.
Ouais.
Bon, on t'attend avec Esteban pour venir nous en parler de ce film lors de sa sortie.
Oui.
Je pense qu'on va pas s'ennuyer avec vous deux.
Non, mais avec plaisir.
On est très fiers en tout cas. Bravo à toi, Jérôme.
Merci et vive l'Aquitaine.
Chut, on écoute la télé spéciale festival.
Allez, vous le voyez dans Ninja Warrior en ce moment hein, sur TF1. Il est aussi co-auteur du best-seller Fils à papa en ce moment dans toutes les bonnes librairies, Christophe Beaugrand. Et notre invité aujourd'hui, bonjour Christophe.
Bonjour, je suis ravi d'être là.
Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Ninja Warrior, ça cartonne, dis-moi, cette année. C'est assez hallucinant avec des nouveaux Warriors, évidemment, qui viennent défier tous ces parcours. Et j'ai l'impression que tu t'amuses toujours autant avec Denis Brognard quand même et Iris.
Clairement, chaque année, Ninja Warrior, c'est vraiment la colonie de vacances. Nous, on a la chance de venir tourner à Cannes, donc généralement, c'est très agréable. Il y a une belle ambiance, on a la mer à côté, les palmiers. Et puis, on retrouve nos champions. Alors, il y a des nouveaux champions qui arrivent, et puis il y a des anciens qui reviennent d'année en année, qui se perfectionnent, qui s'entraînent parfois toute l'année, comme des vrais sportifs de haut niveau. C'est assez drôle. C'est un peu comme une compétition, comme un championnat de France. Et du coup, on retrouve certains, et notamment Jean Tesnas du Moncel, qui est le seul pour l'instant qui a remporté Ninja Warrior. C'était il y a deux saisons, donc on va voir cette année comment ça va se passer. Mais on a beaucoup de jeunes, ça qui nous a beaucoup impressionné. On a eu le prime d'ouverture, c'était la relève. Tous les jeunes qui avaient 13 ans quand on a commencé l'émission, il y a 6-7 ans, qui ont eu 18-19 ans aujourd'hui, et qui rêvaient de faire l'émission et qui se retrouvent comme ça. Voilà, ça fait bizarre, ça nous fait un petit coup de vieux, mais mais on s'amuse bien toujours avec Denis et avec Iris aussi, qui est au plus proche des candidats. C'est un moment très joyeux, toujours.
Alors les filles elles sont aussi mais bluffantes hein. La première fille elle est en finale quand même. Elle s'appelle Morane, elle est incroyable, Morane Angélique.
On a plusieurs candidates cette année. C'est vrai que il y a des filles qui viennent tous les ans, mais ça s'améliore de plus en plus. On a Morane qui est exceptionnelle, qui est une petite française qui a une vingtaine d'années, et on a une jeune belge qui a 19 ans qui s'appelle Marie, qui était là lors de la première soirée, qui nous a juste halluciné. Elle a pu monter le mur, elle a buzzé. On a cette année les meilleures filles qu'on a jamais eues depuis le début de l'émission, et je pense que beaucoup qui n'osaient peut-être pas s'inscrire au début se disent au fur et à mesure, bah on voit les mecs qui vont quand même, qui y vont. Donc pourquoi pas nous? Donc on a envie de mettre en avant les filles aussi, même si on sait que c'est évidemment le niveau est tellement difficile que c'est sans doute encore plus difficile pour une fille que pour un homme, encore que face à moi n'importe quelle fille serait meilleure, mais bon voilà, on est des champions qui sont très très forts, chacun a sa chance dans Ninja Warrior, et c'est ça qui fait que l'émission fonctionne aussi. Chacun y va pour se dépasser, pas toujours pour remporter les 100 000 euros, pas toujours pour réussir à grimper la tour des héros, mais pour essayer. Certaines ou certains passe 2, 3 ou 4 obstacles, et c'est déjà énorme. Donc voilà, chacun se challenge, et puis les téléspectateurs sont très admiratifs généralement des prouesses de nos concurrents.
À suivre tous les vendredis en ce moment à 21h10 sur TF1. Christophe, c'est aussi l'actualité évidemment du moment. Je sais que tu as parcouru la France pendant des semaines pour Fils à Papa. C'est vraiment ce livre qui te tient énormément à cœur.
Oui, on est très heureux de voilà, ce livre a rencontré son public, a rencontré les lecteurs. Ça fait partie des très belles ventes de l'année des éditions Plon qui m'ont proposé d'écrire notre histoire. Voilà, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, ça s'appelle Fils à papa avec un S à papa, parce que dans notre famille il y a deux papas et je raconte le parcours de pour avoir notre petit garçon qui s'appelle Valentin, qui a eu 2 ans là. Et ouais, c'est beaucoup d'émotion de partager ça avec avec les Français, avec les lecteurs, et on a fait effectivement une vingtaine de dates dans toute la France pour essayer de ouais, d'aller à la rencontre des gens. Et beaucoup de gens nous ont raconté des histoires personnelles extrêmement émouvantes, pas seulement des couples de garçons. On a eu des couples de garçons qui avaient des projets aussi pour devenir parents via l'adoption, via la GPA comme nous avec une mère porteuse. Et puis on a rencontré des couples de filles aussi qui avaient pu devenir maman, et puis simplement des couples classiques hétérosexuels, et beaucoup de femmes ont été très touchées par notre histoire et se sont reconnues dans ce désir vraiment de pouvoir être parents. Beaucoup de femmes qui ont eu des difficultés, qui ont eu des problèmes, qui ont eu recours à des dons d'ovocytes, à des fécondations in vitro, etc. Et je me rappelle qu'elles m'ont dit, certaines m'envoient des messages sur les réseaux sociaux en me disant ça fait du bien de parler, de briser un peu cette loi du silence. On n'en parle pas beaucoup de ces questions-là de parentalité, des difficultés pour devenir parents. Alors nous, forcément, on voit tout de suite qu'il s'est passé un truc, il y a quelqu'un d'autre qui est intervenu, parce que deux garçons, évidemment, ça n'est pas possible. Mais je pense que ça ouvre le champ des possibles pour beaucoup de gens, et ça fait accepter aussi, ça contribue en tout cas à faire accepter les familles homoparentales qui sont de plus en plus nombreuses. Et j'ai tendance toujours à dire la même chose, mais ce qui compte, et j'en suis vraiment convaincu, c'est qu'un enfant soit aimé, que ce soit par un parent seul, par deux mamans, par deux papas, par un papa et une maman, par une maman et un beau papa, ce qui arrive beaucoup aussi. Le principal, c'est qu'un enfant soit aimé et soit respecté. C'est ce que j'avais envie de raconter dans ce livre, vraiment, c'est les difficultés qu'on peut avoir pour devenir parent, et le fait que ça puisse être un parcours du combattant. Ça a été évidemment compliqué pour nous, mais effectivement, je suis pas un porte-parole politique. Je parle régulièrement avec des politiques de ces questions-là, parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les mentalités. Après, je suis pas convaincu que il faille en faire un débat de la présidentielle, parce que hélas, ça peut radicaliser beaucoup de points de vue. On a vu à quel point aujourd'hui dans cette campagne il y a beaucoup d'hystérie très vite, donc je pense que ça risquerait de monter un peu les Français les uns contre les autres. Donc je pense que ça n'est pas forcément la bonne méthode. Moi, je pense que c'est plus important de faire avancer les choses par l'exemple que l'on a montré médiatiquement, la visibilité en fait, de montrer que ces familles, elles existent. Donc je pense que c'est ça qui va faire avancer les mentalités, et on voit les sondages avancent de plus en plus, et on voit que les opinions publiques françaises sont de plus en plus favorables aux couples homoparentaux, à la gestation pour autrui, donc les mères porteuses, à faciliter les démarches d'adoption pour les couples de garçons, pour les couples de femmes. Donc je pense que finalement c'est l'opinion publique qui va finir par pousser le politique. À mon avis, ça va évoluer. Je pense qu'il faut laisser le travail faire son œuvre, laisser les mentalités avancer.
Et évoluer.
Et ça va dans le bon sens. Mais chaque témoignage, comme celui que je fais moi, contribue à ça. Là, j'ai un nouveau projet là qui me tient particulièrement à cœur. J'ai eu des propositions d'une société de production pour essayer de développer une fiction à partir du livre.
Ça serait chouette, ça.
Alors, pas pour raconter forcément toute l'histoire, mais peut-être plus pour s'intéresser à l'histoire et là vraiment au sujet de l'homoparentalité de deux papas avec un bébé. Donc on est en train de je suis en train de travailler là-dessus. Je sais pas si ça va aboutir. Là, c'est tout frais. Hein. Donc c'est un scoop, je te le dis. Je viens de signer là hier. Et du coup, j'ai
l'adaptation du livre.
Exactement, et auquel je contribue. J'ai envie de participer à ça pour faire avancer les mentalités là encore, parce que je me dis que ce livre, il a été très lu, mais évidemment ça c'est pas vendu à 3 millions d'exemplaires. Si tu fais un téléfilm en prime time sur une grande chaîne, ça peut faire beaucoup de téléspectateurs et du coup ouvrir les mentalités des gens, permettre de mettre ce sujet sur la table, d'en faire contribuer à en faire non pas forcément un débat de société controversé, mais simplement de faire avancer la visibilité et du coup de faire avancer les mentalités. Donc voilà, c'est un de mes gros projets à développer pour 2022. Je sais pas si ça va se faire, vous savez, les projets.
Enfin, va suivre, j'espère, quand même, sur un sujet comme ça.
Entre les projets de téléfilm qui et ce qui est signé au bout du compte et ce qui est tourné, il y en a peut-être 1/10 qui se font, finalement. Mais je vais me battre pour ça, ça me tient vraiment à cœur, et je vais continuer à donner de la visibilité à nos familles, et puis continuer à le faire aussi sur mes réseaux sociaux régulièrement de manière positive. J'ai pas envie d'être un porte-drapeau revendicatif, qui râle, qui gueule, je pense que c'est pas comme ça qu'on avance. Je préfère partager des images de bonheur, des images souriantes, parce que je pense que c'est à travers le positif qu'on fait bouger la société.
En tout cas, c'est réussi. Et voilà, Fils à papa, je vous conseille ce livre aux éditions Plomb pour voilà lire, dévorer cet ouvrage qui permet de découvrir l'envers du décor. Voilà ce que c'est aussi cette galère pour pouvoir obtenir un droit d'adoption. Merci beaucoup, Christophe. On te retrouve dans Ninja Warrior aussi, bien sûr, vendredi à 21h10. Et on te dit à très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup. Et puis, tu m'as dit qu'à La Rochelle, ils veulent absolument que je vienne pour des dédicaces et que je suis pas venu encore. Donc
toute la Nouvelle-Aquitaine, hein, on t'attend partout. Hein, et on est là pour t'organiser ça, tu le sais.
Moi, j'avais fait Bordeaux déjà, mais c'est vrai que j'ai pas fait La Rochelle. Donc, bon, chiche, on se fait ça en 2022. Essaye de me caler ça et je vous jure, je viens.
On se fait ça dans la région en 2022. On te fait ça, Christophe.
Avec plaisir, je compte sur vous.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, spécial Alpes d'Huez et des belles rencontres ici qui se poursuivent avec Arnaud Ducré qui nous rejoint. Bonjour mon cher Arnaud.
Bonjour.
À l'affiche depuis mercredi dernier de Tendret et Saignant, le film de Christopher Thompson où tu y joues le rôle de Martial, un artisan boucher prêt à tout, et bien pour tenter de sauver la boucherie de son patron décédé et repris par sa fille. Hein. Ouais, j'ai bien situé. Hein.
C'est ça. Alors tu dis prêt à tout, je sais pas si je suis prêt à tout ou si Martial Toussaint est prêt à tout, mais en tout cas, commis passionné qui va perdre son patron et qui va surtout être confronté à la fille de son patron qui elle est fait un rejet total de ce métier qu'elle a connu enfant beaucoup trop donc deux mondes qui s'affrontent et surtout la base de l'histoire c'est qu'on s'est rencontrés dès le début sur un petit plan Tinder, on a consommé elle et moi mais nous ne savions pas, elle ne savait pas que j'étais le commis de son père et je ne savais pas que c'était la fille.
Et évidemment ça va créer des quiproquos tout ça.
Ça va créer des quiproquos et puis surtout ça amène une belle histoire de deux mondes qui sont passionnés par leur métier mais totalement différents et il va falloir que l'un et l'autre se retrouvent pour perpétuer la tradition et que ce soit un métier de génération qu'est l'artisanat de la boucherie quoi.
On est vraiment dans une comédie romantique. Moi, j'ai vu le film il y a longtemps maintenant, il y a plus d'un an. Pour le coup, j'ai eu la chance de le voir avant tout le monde. Et franchement, on est vraiment dans une comédie romantique. Et c'est vraiment chouette de vous voir et Géraldine d'avoir créé ce duo de la part de Christopher.
Ah, c'est super. Et puis Géraldine, elle est formidable. Ça a immédiatement marché quand on a tourné ensemble. Et on a été même, nous, assez agréablement surpris par le fait que la combinaison se faisait super bien, ce qui fait que tout d'un coup ça amène une plus-value au film parce que ça match totalement quoi. Et donc par la délicatesse et la beauté de la façon de tourner de Christopher, je suis très agréablement surpris parce que des fois on lit des scénarios, on les aime et à l'écran c'est parfois ça arrive moins bien que ce qu'on a lu. Et là c'est bien mieux que ce que j'ai lu donc je suis ravi.
Et c'est les fêtes de Noël qui seront au cœur du conflit hein, dans le film. Qu'est-ce qui t'a fait y aller tout de suite? Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet en premier?
Ah bah j'aimais la façon dont le film était écrit. J'adorais le côté très ancré de mon personnage et de parler de l'artisanat de la boucherie. Si vous voulez en toile de fond la boucherie dans une comédie romantique, tu dis bon, ok.
Qu'est-ce que ça part mal au final.
Tu dis pourquoi vrai, ok, d'accord. Et en fait ça amène vachement ça a amené plein de belles choses. Et puis je vous dis c'est un film aussi qui parle des traditions, de l'artisanat, de transmission et de la famille. Voilà, donc tout ça, moi, c'est ces choses qui me parlent.
Une scène qui reste encore marquée, même si le film a été repoussé, évidemment, à cause du Covid. Il est tourné maintenant depuis un moment, mais est-ce qu'il y a une scène qui reste marquée dans ta mémoire?
Je peux juste te dire qu'il y a une scène où je tiens une côte de bœuf. Je ne peux dire que ça, mais c'est une côte de bœuf que je tiens qui protège mes attributs. Je laisse les gens découvrir cette scène, mais elle m'a marqué parce que j'ai quand même passé je pense à peu près la moitié de la journée totalement nu devant tout le monde. Voilà, je sais pas pourquoi on propose toujours des scènes où il faut que je sois nu.
Ouais, c'est bizarre ça quand même. Hein.
J'inspire ça aux gens, donc réalisateur. Bon, ça m'a inquiété cette histoire.
Pour te préparer justement au rôle d'artisan boucher, est-ce que t'as rencontré des bouchers? Est-ce que t'as échangé avec eux? Est-ce que t'as été dans une boucherie justement immergée?
J'ai rencontré Hugo Desnoyers parce que c'est inspiré également de la vie d'Hugo et de Hugo qui est un boucher qui est parti seul de rien et qui est devenu un boucher star. Donc c'est inspiré aussi de l'histoire de Hugo. Donc je suis allé dans la boucherie pendant à raison de 3 heures par matinée. 2-3 heures par matinée, on a appris à découper la viande, à manier le couteau, à surtout m'imprégner de comment Hugo parlait à ses commis, comment il était avec les clients. J'avais très envie de ça, de m'inspirer de tout ça pour que ça soit le plus crédible à l'écran et qu'il y ait une facilité derrière le... Parce que c'est une pièce de théâtre, vous savez, quand c'est une scène, hein, quand d'un coup le rideau de fer s'ouvre, le boucher, il a toujours le petit mot charmeur pour la petite mamie qui vient chercher son déjeuner. Voilà, c'est un charmeur, le boucher. Donc j'avais envie de ça.
Et bien, c'est réussi en tout cas. Il y a des projets pour 2022, Arnaud? Je suis sûr que tu fourmilles de plein de choses.
Oui, je pars en tournée avec mon spectacle. Oui, je suis en train de développer des séries avec plusieurs prods. Voilà, oui, je suis sur plein de choses qui sont en train de se monter, donc je peux pas en parler. Mais parce que vous savez, il faut attendre que ce soit signé. Mais
ça reviendra comme ça.
Mais j'en reviendrai. Et puis, j'espère très vite réaliser mon film qui me tient à cœur de la véritable histoire de Maître Lee, mon prof de karaté que j'avais sur scène. J'en ai fait un film et j'ai très envie de le réaliser cet été. On croise les doigts, mais on n'est pas loin.
Ah super, bah écoute, on le soutiendra bien. Merci. Évidemment, tu sais, t'es toujours le bienvenu. Non, chut, on écoute la télé. Arnaud, on va se quitter avec la bande annonce d'André Seignan. C'est depuis mercredi dernier au cinéma et je vous conseille vraiment cette comédie que vous allez pouvoir retrouver au cinéma. Ça fait du bien en ce moment. Merci beaucoup, Arnaud.
Merci.
C'est le shooting de Paolo.
Merci, Claire.
Papa, qu'est-ce que tu fais là?
J'avais envie de voir ma fille. Là, je travaillais avec un jeune gars formidable qui a plein d'idées.
Merci. Bonne journée.
Il faut que je le connaisse.
C'est pas le moment là, il vaut mieux appeler.
Oh, pardon. Oh là là.
En fait, j'ai appuyé
sur le sensor.
Tais-toi, qu'est-ce que tu fais? T'es pas bouché?
T'as un problème avec les bouchers?
Si je peux, j'évite.
Je suis fleuriste.
On va se retrouver dans un instant pour notre spécial pour te retrouver, Laetitia Millot. Odile McDonald et Isabelle Sébastien arrivent tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. La télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on démarre notre spécial pour te retrouver. Notre coup de cœur télé cette semaine, le film sera diffusé sur M6. On a eu la chance de présenter d'ailleurs une avant-première dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine. Et on reçoit aujourd'hui l'équipe qui est avec nous, Laetitia Millot, qui était donc notre invitée. Bonjour Laetitia.
Bonjour et bonjour à tout le monde.
Merci d'être avec nous. On a également Odile McDonald, la productrice, qui est avec nous. Bonjour Odile.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Isabelle Sébastien également, qui est avec nous, la scénariste, qui va pouvoir nous parler un peu de l'écriture aussi de ce film. Bonjour Isabelle.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Merci d'être là, toutes les trois. Je suis très bien entourée pour parler de ce très beau téléfilm sur l'histoire d'un couple qui se déchire en quelque sorte, qui sont vraiment au bord de la rupture parce que la vie avec un enfant autiste, c'est difficile. C'est compliqué. Et donc on va partir sur cette histoire sur l'autisme en quelque sorte, sur ce couple qui se déchire jusqu'au moment où leur enfant disparaît. Ils vont devoir évidemment unir leurs forces. L'histoire évidemment, eh bien on va la découvrir au fur et à mesure de ce film, mais aussi des difficultés que peut rencontrer un couple qui est confronté effectivement à l'autisme dans la famille. Comment est née d'abord déjà cette histoire, Odile, en quelques mots? Qu'est-ce qui t'a donné envie de produire cette histoire?
Eh bien, c'est une très belle rencontre avec une autre femme qui n'est pas ici avec nous puisqu'elle est québécoise, scénariste également, qui s'appelle Anita Rowan et qui est elle-même maman d'une petite fille autiste. Et Anita m'a proposé un embryon d'histoire, un pitch, un petit synopsis que j'ai eu envie de développer pour la France avec Isabelle Sébastien comme scénariste et Laetitia Millot comme protagoniste. Et donc vraiment, on a vraiment commencé à travailler toutes les trois ensemble, puisque dès le début, on savait qu'on écrivait pour Laetitia. J'en avais parlé à Laetitia et à Laurence, à Vry, son agent. Et l'histoire a commencé comme ça. Et Anita a secondé, accompagné Isabelle au long de l'écriture pour nourrir de son expérience de maman, d'une petite fille différente. Voilà, c'est comme ça que cette histoire est née.
Isabelle, comment on écrit? Est-ce que on va interroger des familles qui sont confrontées justement à l'autisme? Comment on prépare une fiction comme celle-ci en tant que scénariste?
Alors, j'avais pu discuter justement avec Anita. Elle m'avait posté pas mal de choses. Elle postait généralement beaucoup de choses aussi sur sa fille qui avait 12 ans. J'ai évidemment regardé les vidéos d'Églantine Émeillé qui est un enfant autiste. Et alors, au début, c'est très très effrayant parce qu'on se demande... Enfin, moi, ça a été un vrai coup de poing, un vrai choc. On se dit comment on peut avoir un enfant. Oui, c'est du bonheur, mais c'est aussi un certain changement de vie pour des parents. Mais là, quand on a un enfant autiste, au début, je pense que ça doit remettre en cause toute notre vie. En fait, on se pose énormément de questions. Et l'idée, en fait, c'était vraiment de travailler sur un couple de parents qui découvre qu'il y a cet enfant. Et il y a plusieurs réactions, en fait, face à cet enfant. Donc là, en l'occurrence, les parents n'ont pas la même réaction face à la découverte de l'autisme de leur enfant. C'est ce que je trouvais très intéressant En fait, c'est aussi quelque chose de plus universel sur le fait d'avoir un enfant et de se dire comment on l'éduque, comment on l'élève. Là, c'est encore plus complexe puisqu'il y a une vraie problématique d'autisme qu'on découvre, de déni et puis de prise en charge. La maman a plus les pieds sur terre, en fait. Et le père est plus dans le déni. Il pense qu'il peut continuer à élever son enfant comme les autres. Et ça génère un conflit. Voilà, j'ai lu pas mal de choses et puis après, j'ai travaillé. Chaque version était lue justement par Anita Rowan. Elle me faisait des petits retours, surtout sur l'enfant, sur la manière de se comporter l'enfant. Et puis, voilà, je savais que j'écrivais pour Laetitia, donc j'ai beaucoup regardé. J'ai été touchée par... tu étais maman à l'époque, hein, déjà, très maman, hein. Et voilà, je me suis beaucoup appuyée sur ce que tu transmettais, en fait. Voilà, j'ai vraiment écrit pour toi et moi j'aime bien ce processus-là aussi.
Laetitia, comment tu t'es préparée toi à ce rôle de maman, pour le coup à l'écran ?
Alors moi, pour tout vous dire déjà, pour revenir à la base, effectivement mon agent Laurent m'avait parlé de ce scénario qu'Odile et Isabelle travaillaient pour moi. En fait, j'avais déjà travaillé avec Odile pour Meurtre à Avignon. Et donc du coup, c'est vrai que je suis tombée un petit peu amoureuse aussi d'Odile parce que j'adore cette productrice. Et en fait, elle sait, je pense, comment, enfin ce que j'aime et vers où j'ai envie d'aller aussi. Et Laurent m'avait pas fait, il me faisait pas lire beaucoup au départ le scénario parce qu'il m'a dit justement, on te prépare vraiment une surprise et je veux que tu découvres la surprise quasiment vers la fin. Et donc là on m'a présenté le scénario et en fait j'arrivais pas à le décrocher. J'avais les tripes qui se serraient au fur et à mesure que je lisais. Et là je me disais, ah ouais, Odile, effectivement elle a vraiment écrit ce film vraiment, enfin pour un personnage que j'ai envie de défendre parce que c'est très fort, c'est un personnage hyper fort. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai dit mais c'est clair, net, j'y vais, je fonce et j'ai envie de défendre ce personnage qui est effectivement très fort. Et en même temps on montre la difficulté que ses parents ont, alors à la fois dans leur vie de couple parce qu'il y a le avant et le après la naissance de Lucas, et il y a ce déchirement effectivement où la mère est plus réaliste et assume son fils et n'est pas du tout dans le déni. Elle a envie de l'accompagner et au contraire, elle a envie de se documenter, elle a envie de se renseigner sur l'autisme. Et le père, lui, effectivement, est tout le contraire de moi, en l'occurrence, et il est plutôt dans le déni. Et c'est à cause de ça, en fait, que ce couple se déchire. Parce qu'effectivement, s'occuper d'un enfant autiste, c'est vrai qu'on réalise à quel point c'est dur parce que c'est pas le temps d'un tournage, c'est pas le temps d'un mois, c'est toute une vie. C'est toute une vie qui est effectivement assez difficile finalement à vivre. Toute une vie pour le petit, mais toute une vie aussi pour les parents. Et effectivement, cette déchirure, ça arrive que des parents se déchirent, mais ça arrive aussi que des parents restent soudés avec leur enfant. Moi, par exemple, dans notre entourage, nous avons un couple avec un autiste, et ce sont nos amis. Et la preuve, aujourd'hui, ils sont toujours aussi soudés, et je leur souhaite évidemment une très longue vie. Et donc voilà, c'est pas le schéma obligatoire de tous les couples. Mais effectivement, ça peut arriver.
On va écouter la bande-annonce tout de suite, un petit extrait pour te retrouver. C'est donc cette semaine sur M6. On écoute.
Regardez ce que j'ai trouvé. Je crois que c'est le Père Noël qui l'a oublié dans le conduit de la cheminée.
Retour pour notre spécial pour te retrouver. Alors c'est justement la question qu'on va se poser pendant tout ce film. Où est passé Lucas? A-t-il fait une fugue? A-t-il disparu? Y a-t-il arrivé quelque chose? S'est-il fait enlever? C'est une angoisse pour les parents qui est inimaginable quand ils sont en train de vivre les personnages que tu joues. Est-il le personnage de Marion?
Et ça arrive, en fait, la disparition arrive le jour où le père en a la garde. Et donc là, c'est un conflit encore plus parce que justement la mère est révoltée. Elle dit qu'elle s'occupe, il s'occupe mal de son fils et en plus, il disparaît sous ta garde, quoi. Donc non, c'est pas possible. Là, elle devient folle. Elle pète un câble.
Un casting magnifique. Florence Thomassin, David Mora, Lucie Jeanne, Laurie Bordesoul, que vous aimez aussi dans Plus belle la vie. Il y en a plein comme ça. Arthur Junior aussi qui joue le frère d'Assad Bouab. Et puis Assad Bouab que les fans de 10% évidemment, je suis sûr, ont reconnu. Pas forcément au début du film, mais après, je suis sûr qu'ils l'ont reconnu, Odile.
Oui, très très beau casting. C'est vrai que amené par l'histoire, certainement, dont on vient de vous parler, mais aussi par Bruno. Bruno a su rallier autour de l'histoire, vraiment des comédiens qui tous ont été très très impliqués, parce que le scénario permet à chacun de trouver, il y a vraiment, toutes les partitions sont d'une très grande finesse, donc j'apprécie vraiment beaucoup ça dans ce film, le père et la mère bien sûr, mais l'ensemble, et puis après aussi deux petits garçons absolument extraordinaires, puisqu'on a Lucas à deux âges et deux jeunes comédiens dont l'un, c'était sa première expérience absolument exceptionnelle.
Alors moi, j'ai eu la chance de voir le film il y a quelques semaines. La question que je me suis posée, c'est justement, est-ce que ces deux petits garçons sont autistes ou pas? Parce que franchement, s'ils ne le sont pas, mais c'est merveilleusement bien joué. Hein.
Ils ont été très très bien guidés. Ils ne sont pas autistes. On nous a beaucoup posé la question, et même nous, de façon très ingénue, on s'est dit, ah bon, on va travailler avec des autistes, si ce n'est pour le rôle principal, peut-être pour d'autres, parce qu'à un moment où on va dans une école spécialisée. Et puis en fait, donc les enfants trisomiques adorent jouer. J'ai déjà tourné avec des enfants trisomiques, ils adorent le jeu, c'est un jeu, et ils font ce jeu, ils sont très sociables, ça leur plaît, et ils sont plutôt bons acteurs, et ils aiment ça. Un autiste, généralement, la particularité, c'est que son univers doit être contrôlé autour de lui, ne pas comporter de nouveautés, et va aimer sa routine. Alors vous imaginez qu'une équipe de 50 personnes qui débarquent dans leur cadre de vie, puisqu'à un moment on a tourné donc au centre Bulder, et même là on a dit, ah ben on pourrait être avec les enfants, et la directrice nous a dit, mais pas du tout, de toute façon vous en aurez pas, vous allez arriver, ils vont tous se sauver parce que ça va être trop difficile pour eux, de vous allez venir, donc non, ce sont de jeunes comédiens absolument exceptionnels et qui ont été coachés par une coach d'enfants, mais qui avait déjà travaillé avec des enfants autistes, donc elle était très très fine dans les indications qu'elle leur donnait. Et puis encore une fois, Bruno, qui a fait un travail...
Une direction d'acteur sublime, vraiment, au niveau des enfants, mais même à notre niveau. Et puis la préparation aussi de ce film, je veux dire, Bruno a fait un excellent travail. Et c'est vrai que, par exemple, un mois avant, on était appelé par Bruno, on a fait des lectures, certes, mais on s'est beaucoup documenté. Et grâce à Bruno, notamment avec Églantine Émeillé, il nous envoyait le documentaire, il nous envoyait plein de choses à regarder et à lire avant, pour la préparation de ce film. Et c'est vrai que les enfants ont été très, très bien dirigé par Bruno, et nous aussi, hein. Enfin, je veux dire, voilà, il nous amenait vraiment où il avait envie de nous amener. Et puis attention, il fallait pas aller à côté. Hein.
Bruno avait une idée très précise de d'où il voulait amener Laetitia, de qui était cette jeune femme, mère de famille, d'un enfant différent, plus difficile, plus compliqué que d'autres enfants. Et donc, je pense que vous allez voir Laetitia comme vous l'avez pas toujours vu. Il avait vraiment une idée très précise et vous vous êtes vite rencontrés là-dessus. Dans son look, mais même dans sa façon de jouer et tout, il y avait vraiment et puis une progression, puisque le film couvre, c'est pour ça qu'il y a deux enfants en fait, hein, qui jouent le même rôle. Le film couvre toute une période en fait.
Quand l'histoire de ce couple en quelque sorte. Hein.
Au flashback en fait, c'est vrai que Bruno là, il a su mêler donc les flashbacks en même temps avec le présent, et on retombe, donc on comprend le pourquoi du comment, vraiment, c'est ce que je disais dès le départ, parce que ces flashbacks nous amènent dans le passé, nous amènent au moment où ils étaient heureux, en fait, au moment où elle apprend qu'elle est enceinte, au moment où elle accouche, et au fil du temps, on voit la déchirure petit à petit de ce couple, et on comprend le pourquoi du comment, et c'est ça qui est sublimement filmé. Vraiment.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est justement quand on repart dans le passé, à chaque fois, il y a cette espèce de petit effet noir et blanc qui nous permet de se visualiser, de dire, ah, on retourne dans le passé. Et ça, c'est bien parce que ça permet de pas mélanger, effectivement, le présent et le passé. C'est bien qu'il y ait cet effet-là, justement, pour nous montrer qu'on repart, justement, 5 ans en arrière, à chaque fois.
Ça me fait plaisir, Alain, parce que nous, on était tellement plongés dedans. On avait lu plein de versions. On avait que ça ne nous semblait pas nécessaire. Et puis quand on a des regards extérieurs, et notamment nos partenaires chez M6, qui eux ont vu le film monter, ils nous ont dit non, et puis ils ont une certaine expérience qui vient compléter la nôtre, et on a pas mal bossé là-dessus pour trouver quelque chose qui nous fasse pas sortir de l'histoire, qui soit, ça me fait bien plaisir, parce qu'il y a eu quelques petits nœuds dans le cerveau pour trouver le bon équilibre.
Isabelle, moi je me pose toujours une question, quand un scénariste est écrit chez lui ou ailleurs, où il trouve l'inspiration, qu'il écrit un scénario comme ça, et qu'il voit la première fois le film monter avec l'histoire qu'il a imaginée dans sa tête et écrit défiler comme ça devant ses yeux. On ressent quoi à ce moment-là, Isabelle ?
Alors ça dépend, hein. On peut être très agréablement surpris, on peut être déçu aussi. En fait, il faut vraiment que la scénariste travaille avec le réalisateur pour qu'on se transmette. Pour moi, il y a un travail de transmission extrêmement important de la scénariste. En l'occurrence, on a fait beaucoup de lectures avec Bruno. Moi, j'essaye toujours de transmettre tout ce que j'ai appris, en fait, et les moindres petits détails. Je lui dis, tu vois, ça c'est comme ça parce que donc je lui raconte toutes les histoires, on décortique tous les dialogues, et avec Bruno on a fait trois quatre lectures en fait pour bien que je lui transmette les intentions qu'il y avait dans ce texte, les personnages, et ensuite lui prend le relais. Donc moi ensuite je fais entièrement confiance, je passe sur le tournage en touriste. Alors là, quand j'ai vu le film, j'ai été très agréablement surprise parce que j'avais toutes ces images en tête. Et puis très souvent on écrit des films, on ne sait pas qui va jouer dedans. Nous, on pense à quelqu'un, effectivement, à un comédien ou à quelqu'un qu'on connaît. Là, je savais déjà que je travaillais pour Laetitia, donc je l'ai déjà vu. Donc, c'est une surprise en moins. J'ai été très agréablement surprise donc par ce couple qui fonctionne très bien. Laetitia et Assad, je trouve que c'est un couple... Je rêvais du couple fusionnel, c'est ce que raconte ce film. Ils sont fusionnels et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient casser cet élan. C'était ça le démarrage du film. Et là, on n'a pas beaucoup de temps pour installer ce couple, et dans la première séquence, ça y est, tout est là, on le sent. Et puis ensuite, évidemment, j'ai été très agréablement surprise par le jeu des deux enfants, que j'ai trouvé formidable. Voilà, donc oui, j'ai beaucoup aimé ce film, et justement, ces deux temporalités, c'est toujours des petits détails qui lient les choses aux autres. Donc au niveau structure, moi ça m'a beaucoup amusé d'écrire ce scénario. C'était un challenge ensuite de passer à l'image, et c'est vrai que Bruno a passé ce challenge allègrement.
On va le suivre, ce film. Ça sera cette semaine sur M6 pour te retrouver. Laetitia, dernière petite chose à ajouter.
Je disais, parce que c'est vrai que c'est une disparition avant tout aussi. Ce film, c'est une disparition. Et en fait, donc déjà, à la base, une disparition, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais là, c'est encore plus... Enfin, vraiment, on est encore plus dedans. Même si c'est terrible, une disparition, je veux dire. Mais avec un autiste. Parce que là,
il est fragile,
il est tout seul. Dans le noir, où on sait pas où, on sait pas avec qui, on sait pas comment les personnes réagissent avec lui, parce qu'attention, on se comporte pas pareil avec un autiste et un non-autiste, évidemment, un enfant non-autiste. Donc, on doit pas le toucher, on doit pas le serrer, la moindre chose peut lui faire peur, le noir lui fait peur, une musique peut lui faire peur, voilà, il y a pas de repère. Donc, en fait, là, c'est vrai que c'est ce que, quand je lisais ce scénario, c'est vrai que mes tripes vraiment étaient serrées encore plus, parce que je me disais, merde, c'est la disparition d'un enfant. Donc déjà, c'est atroce, mais encore plus là...
C'est juste invivable pour les parents.
Voilà, les parents sont dans une situation où la mère réalise réellement ce qu'est un autiste en dehors, sans ses parents, sans ses repères. Lui, justement, elle le met aussi face à ses faits par rapport au père, hein, je parle, parce que lui réalise peut-être pas au début, mais après, effectivement, il se rend compte effectivement qu'un autiste a été kidnappé ou et en tout cas est dehors tout seul. Donc
oui, il y a un vrai suspense avec les pires soupçons, les pires soupçons sur ce qui a pu vraiment arriver à l'enfant.
Il faudra rester jusqu'à la fin. Exactement. Il faudra rester jusqu'à la fin du film pour savoir ce qui s'est passé. Pour te retrouver, c'est donc cette semaine sur M6. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous.
Avec plaisir. Merci à vous.
Merci Alain.
Merci beaucoup.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Alors préparez-vous, parce que lundi prochain, ça va déménager dans Chute, on écoute la télé, avec Déborah François et Jean-Charles Cliché qui seront avec nous pour le téléfilm Les Particules élémentaires. Nous aurons aussi la chance de recevoir Aline Besson et Camille Lou pour le lancement de la saison 2 de Je te promets. Melville Poupeau également, Karine Tardieu et Fanny Ardant seront nos invités exceptionnels pour la sortie du film Les Jeunes Amants. Et on aura également toute la bande à Fifi qui sera avec nous, Philippe Plachaud, Julien Ruthier et Elodie Fontan pour la sortie du film Super-héros malgré lui. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne, du lundi au vendredi à 10h07, midi 17 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram, bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour
la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude. Et je vous dis à demain pour la quotidienne.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec Vue d'ici. Volets battants, coulissants ou persiennes innovants. Fabriqués en Charente-Maritime. Vue d'ici. Le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.